Puis ensuite, le Bitcoin est passé de 5K à 40 et tout a changé. Donc, on a été un plus ambitieux dans nos recrutements. Et malheureusement, ce qui s'est passé en 2023, c'est qu'au mois d'avril, on a eu la crise avec 2 mois de retard, 2 ou 3 mois de retard. Moi, c'était absolument évident que même le monde de la self-custody allait scaler sur le cloud et pas sur le hardware. En fait, nous, on avait vraiment envie de faire un go-to-market rapide et pas de lancer un produit pour les banques jour 1. Tombé sur deux personnes qui étaient très très bonnes sur mes sujets, mais qui n'étaient pas du tout des fondateurs en fait.
Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les coulisses du Web3, j'accueille Clarisse Agege. Salut Clarisse.
Salut Gary, comment tu vas?
Ben écoute, super, merci. Je crois que toi aussi.
Ça va bien, merci. Ouais.
Merci pour ton temps. Aujourd'hui, on va parler de Defense. Alors, moi, je prononçais tout le temps DFNS avant que j'aille sur la page Welcome to the Jungle et que je vois que ça se prononce Defense.
Ouais, ce que j'allais dire, bravo, tu l'as dit bien du premier coup, effectivement. Écoute, on a réalisé effectivement que les gens faisaient une erreur de prononciation, puis après, on a aimé l'effet initié. C'est-à-dire qu'une fois que tu le sais, tu le sais, tu comprends, et à un moment, tu dis, ah, en fait, je comprends pourquoi c'est
Exactement.
DFNS.
C'est exactement ce qui s'est passé. écoute, dans cet épisode, on va revenir sur votre levée de fonds de 12 millions d'euros en 2022, avec des belles références hein, qui sont entrées au capital, votre positionnement aussi hein, face à des acteurs comme Fireblocks. Et d'ailleurs, on expliquera ce que vous faites, bien sûr. Et aussi, comment se passe votre activité après une période de bear market maintenant révolue, on espère. Aussi, votre déménagement à New York. Peut-être déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter Defense?
Oui, alors je suis Clarisse, CEO de Defense. Avant de lancer Defense, moi je viens du monde traditionnel de la finance. Je suis une ancienne banquière avec un parcours assez classique. Et j'ai lancé Defense il y a bientôt 4 ans. Oui, bientôt 4 ans. Et ce qu'on fait chez Defense, c'est qu'on fournit une solution de technologique de custody d'actifs numériques. En d'autres termes, on crée des wallets pour les entreprises, pour les fintechs, pour les startups, pour qu'elles puissent MBD, j'allais dire, mais intégrer à leur site, à leur back-office, à leur middle-office, une solution de sécurisation d'actifs numériques.
On reviendra d'ailleurs sur les différents use cases. Déjà pour revenir sur la création de Defense, comment tu as fait ce switch entre ton ancien métier et ce pivot vers le monde de la blockchain?
Ouais, ça s'est fait en plusieurs temps. Comme j'étais dans la finance depuis 2009-2010, évidemment, on a vu arriver la blockchain. On parlait plutôt de la blockchain que des cryptos dans l'industrie financière. Et surtout pour améliorer des métiers comme le trade finance. Et d'ailleurs, c'est des sujets qui sont encore d'actualité parce qu'il y a un manque de standardisation dans cet espace. Et même si je pense que c'est d'ailleurs un des use cases qui est sur lequel la blockchain peut vraiment scaler. Aujourd'hui, on est toujours en train de parler de comment la blockchain peut améliorer le trade finance, mais c'est un vieux sujet, ça fait 10 ans qu'on en parle. Et donc, on regardait ça, et donc ça a été ma première approche sur la technologie. Et ensuite, en 2016, j'ai décidé d'avancer un peu plus et de me mettre à lire des white papers, notamment white paper d'IOTA à l'époque, que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Et en fait, c'est un peu là que chacun a un moment où son cerveau a explosé. C'est le moment où mon cerveau a explosé en me disant, mais en fait, voilà, en fait, on reviendra pas en arrière. Ça va transformer significativement toutes les transactions d'actifs, toutes les transactions de valeur. Et à l'époque, j'ai essayé de monter une application de rémittance. J'étais à New York aussi, et avec mon associé, on travaillait sur le sujet des rémittances entre les États-Unis et le Mexique. Et donc, du coup, comment améliorer les rendre plus faciles, moins coûteuses. Sauf qu'en 2016, tu ne pouvais pas construire grand-chose sur la blockchain. Les smart contracts venaient d'être annoncés. Mais c'est vrai que c'était une technologie encore assez difficile. Et puis, du coup, on a décidé de mettre le projet de côté après 1 an et demi de travail sur ce sujet-là. Et donc, du coup, moi, je suis restée très proche de ce secteur, et j'ai eu la chance en 2019 qu'on me propose de conseiller une start-up qui était incubée par l'incubateur de la banque dans laquelle je travaillais, donc à l'époque Crédit Agricole, CACIB. Et donc, c'était une start-up du village. Et
Qui s'appelait comment?
IOV, et qui était rebrandé en Starname. C'était un blockchain name service sur Cosmos. Et ils finalisaient cet été-là leur ICO privé. Et j'ai voulu les aider à lever un petit peu d'argent. Et ce qui me semblait intéressant, c'était d'aller voir des acteurs institutionnels qui n'avaient jamais acheté de crypto et d'essayer d'évangéliser un petit peu justement sur la tech, sur les projets qui étaient en train d'être créés. La vente du projet n'était pas compliquée parce que ça fait partie, même si le blockchain name service, on n'en parle pas beaucoup, ça fait partie quand même des piliers fondamentaux d'infrastructure où les acteurs institutionnels comprennent, peuvent comprendre pourquoi tu décides de remplacer un IBAN par un nom. Donc vendre le projet, c'était pas si compliqué que ça. Par contre, vendre le closing du projet, c'était vraiment un cauchemar. Aucun acteur ne voulait avoir un ledger et faire confiance à son trader pour pouvoir conserver leur investissement. Si tu voulais ouvrir un compte chez Anchorage et BitGo, les frais étaient tellement énormes que si tu investissais 100 ou 150K, ça faisait aucun sens. Et donc, c'est vraiment cet été-là que j'ai commencé à approfondir le sujet de la conservation institutionnelle d'actifs numériques, d'un point de vue technologique, d'un point de vue aussi de services financiers. Et ce qui me semblait, c'est qu'il y avait un vrai trou dans la raquette sur la partie technologique, et on avait des solutions qui étaient des solutions davantage pour des investisseurs. Pas de solution qui était vraiment fit pour moi, ce que j'appelle la vague de la builder's economy, donc pour pouvoir vraiment aider les développeurs, pardon, à construire des applications sûres. Et donc voilà, c'est comme ça que Defense est né, avec, on va dire, en tête deux sujets principaux. Le premier, essayer de construire une solution pour conserver des actifs de façon décentralisée, parce que ça me semblait un peu aberrant qu'on soit tous en train d'interagir avec une technologie décentralisée, qu'on prenne notre clé privée, qu'on la mette sur un device centralisé, chez des acteurs centralisés. J'ai l'impression qu'on recrée un énorme point unique de défaillance. Et le deuxième, c'est avoir une solution qui soit API first pour pouvoir justement intégrer des stacks technologiques et être beaucoup plus facile à leverager.
Ok, ouais. Donc le constat de base, c'était que des acteurs comme BitGo, en fait, étaient vraiment adaptés pour des institutionnels, enfin comme des exchanges, par exemple, mais pour des développeurs, des boîtes qui voulaient se lancer, c'était juste des intouchables en termes d'entrée, quoi, de prix d'entrée.
Exactement, et la technologie était, surtout tu vois, 2019, la technologie était vraiment vraiment pas là. On était sur des sujets où si tu voulais avoir accès à ton argent, t'attendais 48 heures pour que BitGo redébloque les fonds. Donc vraiment pas du tout fit pour ces acteurs-là. À l'époque, en 2019, t'avais Curve et Fireblocks qui sortaient de leur seed, qui étaient qui venaient de lever une seed. Donc c'est plutôt des petits acteurs. Ce qui semblait vachement intéressant, ce qu'ils faisaient, surtout en levant de gens la technologie qu'on utilise aussi aujourd'hui, qui est le multi-party computation. On pourra en parler, mais encore une fois, des solutions qui étaient surtout des interfaces qui permettaient à un asset manager d'interagir avec ses actifs numériques, et pas encore de solutions vraiment API first.
Ok. Et alors, quand tu as eu cette idée, enfin, c'était quoi le, enfin, en plus, enfin, t'es pas développeur, donc
Non.
ça a été quoi un peu le, enfin, comment tu t'es dit, ok, je vais creuser ça, c'était quoi les premières actions?
Écoute, une des discussions hyper importantes que j'ai eues, et c'est drôle, là, tu vois, je vais à Eve Denver dans quelques semaines, et je me disais qu'il y a 3, 4, 5 ans, les conférences blockchain étaient absolument incroyables parce que tu rencontrais les fondateurs des plus grosses boîtes tout le temps, mais vraiment au détour d'une pièce. Ils étaient très accessibles et tu avais des conversations incroyables. Et justement, en 2019, c'était la Blockchain Week à Berlin au mois d'août, et j'ai rencontré Auriel, le fondateur de Zengo. Et
Yes.
lui me parle de Zengo et du MPC et de la technologie qu'il commence à utiliser, qu'il a leveragé pour faire du self-custodial wallet sécurisé. Et voilà, il m'en parle pendant 1 heure et je trouve que c'est incroyable. Du coup, je rentre chez moi et je regarde MPC pour les nuls. Non, mais je commence à regarder effectivement cette technologie de près. Et ce qui me paraît génial, c'est deux choses. La première, c'est que on peut enfin envisager une conservation décentralisée des clés, puisqu'en fait, le MPC par nature génère une clé en morceaux, et donc plusieurs parties peuvent conserver ces morceaux, un réseau, peut-être un jour une blockchain. Donc c'était, on va dire, le premier point. Et le deuxième, c'est que c'est une technologie qui élimine le point unique de défaillance quand elle est implémentée correctement, évidemment. Et deuxièmement, introduit la notion de business continuité de façon presque native. C'est-à-dire que tu peux perdre des morceaux de clé et continuer à régénérer ces morceaux de clé que tu as perdus. Tu peux envisager qu'un serveur, à un moment donné, arrête de fonctionner et quand même permettre à tes utilisateurs d'accéder à leurs fonds. Et le dernier point aussi, c'est que comme ce sont des cryptos primitives, tu peux enfin envisager une solution qui n'est pas juste une solution hardware-based, mais software-based. Et ça, c'est pour moi, c'était absolument évident que même le monde de la self-custody allait scaler sur le cloud et pas sur le hardware.
Alors, pas mal de choses, hein. On va revenir sur ce
Ouais.
point-là. Et d'ailleurs, je vous recommande hein, l'épisode avec Auréal Ohio, hein, CEO de Zengo, que j'avais enregistré il y a quelques semaines. Super épisode. Il expliquait bien d'ailleurs les différents use cases. Alors, c'est vrai que Zengo, je pense que c'est une solution assez complémentaire parce que c'est plus adressé aux particuliers. C'est
Ouais.
vraiment une app mobile, hein, alors que vous êtes plutôt API first pour les développeurs.
Mais t'as raison, et d'ailleurs, j'ai pas répondu à ta question. Et donc, du coup, je rencontre Auriel, et je trouve que c'est génial. Je rentre chez moi, et je commence à écrire un article, à l'époque, avec d'ailleurs le fondateur d'Iov, en disant, mais en fait, pourquoi tu ne permets pas à des milliers de wallets de devenir des Zengo, plutôt de créer Zengo? En fait, la technologie que t'as créée est géniale, t'en fais une API. Demain, tu peux, bah, du coup, permettre à n'importe quel développeur de leverager la même sécurité et de créer des wallets qui soient aussi sécures que le tien. Et à l'époque, Auriel me dit, moi, mon sujet, c'est un play consumer. Ce qui m'intéresse, c'est le play consumer. Donc, intéressant, mais c'est pas mon sujet. Et c'est là où, en fait, je prends cet article, on le met en ligne sur Medium. Et quelques semaines plus tard, à l'époque, le head of blockchain d'AXA, Laurent Benichoux, qui nous demande de venir pitcher l'idée, puisqu'il tombe sur l'article. Et on y va. Et Laurent Benichoux finit le meeting en disant, mais c'est génial, nous, on pourrait utiliser quelque chose comme ça. Revenez me voir quand vous avez un prototype. C'est là que je dis, ah, en fait, je vais peut-être démissionner et lancer ce prototype. Donc voilà, ça a été vraiment pour moi l'élément déclencheur. Tu me demandais qu'est-ce qui t'a poussé, comment tu passes de cette idée à créer une entreprise. Ben, là, tu vois que tu as un. On est loin d'être sur un product market fit, mais au moins tu vois que ton idée est reprise, qu'elle est appréciée et que tu comprends que tu étais en train de répondre à un pain assez fondamental. Et voilà. Et donc là, je me suis dit que, tu vois, on est en septembre 2019. Quand tu crois un tout petit peu que cette industrie va, enfin, toute l'industrie financière va tourner sur la blockchain et qu'on est à l'âge 1 de l'industrie, tu te dis que c'est un sujet assez fondamental pour tenter ta chance et quitter ton boulot et te mettre full time sur ce projet-là. Donc c'est ce que j'ai fait.
Donc ouais, deux rencontres importantes. Et d'ailleurs, pour développer ensuite prototype, comment ça s'est passé? Tu t'as engagé des développeurs sur fonds propres ou tu t'es associé avec des développeurs?
Bah ça, c'est mes premières erreurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Bah oui, effectivement. Donc du coup, moi, j'arrive. C'était ma première vraie, on va dire, initiative entrepreneuriale. Il y avait eu ce projet avant, mais j'avais fait avec un ami qui était lui-même développeur. Donc on était resté beaucoup dans ce binôme. Et là, effectivement, j'avais besoin de trouver des cofondateurs techniques. Un peu naïvement, hein, j'ai lancé des offres d'emploi pour des cofondateurs sur AngelList et un peu partout. Et je suis tombée sur deux personnes qui étaient très, très bonnes sur mes sujets, qui comprenaient vraiment le projet, mais qui n'étaient pas du tout. Qui n'étaient pas du tout des fondateurs, en fait. Et donc, du coup, qui attendaient la levée pour vraiment commencer à travailler, à s'investir. Et donc, on passait beaucoup de temps à brainstormer, mais très peu de temps à construire. Et j'ai la chance d'avoir un conjoint qui, lui, a été entrepreneur toute sa vie, et qui me dit, attention, Clary, je pense que ça va prendre du temps à construire ce prototype à cette allure. Et qui me montrait un peu ses red flags, que j'ai écouté. Chris a fini par me rejoindre deuxième trimestre 2020 sur ce projet, alors qu'il mettait le sien de côté. Et là, effectivement, on a mis en place un process beaucoup plus carré de recrutement de cofondateurs. On a levé notre pré-seed en même temps et donc en fait on n'a pas développé sur fonds propres. On a été chercher un CTO qui à l'époque avait lui déjà été fait partie de l'équipe cofondatrice d'une solution d'actifs numériques qui avait été vendue à Genesis, donc il connaissait bien le sujet. Et voilà, une fois que David nous a rejoint, la dynamique était lancée, c'était beaucoup plus facile pour lever notre pré-seed. Évidemment, c'est des sujets tellement techniques que quand tu t'es pas cofondateur technique, même au niveau de la levée de la pré-seed, les choses étaient plus compliquées. Donc voilà, une fois qu'on a recruté David, en 4-5 mois, on avait un premier prototype qu'on pouvait présenter, alors qui était loin d'être complet, pas avec une technologie propriétaire, mais on avait quelque chose qui prouvait un peu effectivement notre projet.
Ok. Et d'ailleurs, vous avez levé combien en précis de...
On a fait une pré-seed en deux rounds. On a fait une première pré-seed de 350 000 euros. Et crédit à Super Capital, parce qu'en fait on l'a fait quasiment qu'avec la newsletter d'Orantin, qui a parlé de notre projet, et on a Orantin Corsini, Corentin pardon, Orsini, et qui a et là on a eu trois BA qui sont rentrés rapidement sur le projet. Et deuxième temps, nous on a été incubés par un programme Techstars ABN AMRO, et dans ce programme on a rencontré pas mal de monde, et en fait on a eu pendant le programme une volonté de quelques business angels d'investir. Donc on a réouvert un deuxième round sur ce précide, ou un deuxième tour, une extension du précide, et là on a relevé 600 000 euros. Donc on a fait quasiment, je crois que c'est 900 000 euros de précide, 900 000 euros de précide au total.
Et après, ok. Et après, vous êtes allé revoir AXA pour montrer ce fameux proto.
Alors oui, sauf que les projets d'AXA avaient bien changé
Eh oui.
entre-temps. Donc oui, on en a reparlé à Laurent Binchou, mais en tout cas, c'était plus le sujet pour AXA. Non, après, là, on a eu justement la chance d'être incubé par Techstars. C'est vrai que ABN AMRO, c'était un sujet qui les intéressait, donc on a fait un POC avec eux. Donc on a eu pas mal d'expertise justement d'ABN AMRO et de retour sur ces sujets-là. Et surtout, en fait, nous, on avait vraiment envie de faire un go-to-market rapide et pas de lancer un produit pour les banques jour 1. Pourquoi? Parce qu'on voyait bien que le monde de la finance et de la finance institutionnelle était vraiment à l'état de POC et qu'on n'allait pas avoir le retour produit qu'on envisageait. Alors peut-être qu'on produirait théoriquement le produit parfait pour ces institutions-là, mais on avait plutôt envie de lancer un produit qui soit une developer tool dans les mains des développeurs Day One, et avoir un feedback très très rapide en fait. Et donc on a eu un go-to-market qui était un go-to-market destiné surtout à des crypto startups, crypto scale-up, et donc voilà, on a commencé davantage avec ces acteurs-là.
Et c'était qui d'ailleurs les premiers clients?
Écoute, on a commencé avec les premiers clients. D'ailleurs, je peux en parler. Hein, c'est Mont Pèlerin, Nilos, et maintenant une entreprise qui a pivoté, qui s'appelle Offblock. Voilà, ça, c'est les premiers clients qu'on a onboardés sur 6 mois. On a vraiment passé 6 mois avec eux à stabiliser le produit. Et quand eux étaient heureux, on a ouvert le pipe. Et ça, tu vois, on a passé donc 6 mois. Je crois que le premier contrat qu'on a signé, c'était décembre 2021, et on a commencé à commercialiser au mois d'août 2022. Donc tu vois, 7 mois, 6, ouais, 7 8 mois même, à vraiment en labo avec ces trois clients.
Ok, et ouais, donc des belles références. Mont Pèlerin, c'est une plateforme d'échange suisse. Et Nilos, c'est une solution qui permet de gérer la comptabilité entre fiat et crypto. Enfin,
Ouais,
non, c'est pardon, c'est
San.
plutôt une. Oui, ils sont psan, pardon, c'est plutôt une crypto banque,
Banque?
plus ou moins. Ouais,
Oui,
crypto banque,
on
hein,
peut
on peut
dire
le
une
dire.
crypto-banque. Ouais.
Ouais, yes.
Et d'ailleurs, c'est génial, parce que cette équipe, en plus, a vraiment conscience qu'il y a une crypto-banque dans leur réflexe sécuritaire. Ils réfléchissent comme une banque. Ils sont très jeunes, mais ils réfléchissent. Il y a beaucoup de points communs, justement, avec les demandes d'un ILOS et les demandes d'une grande institution financière. Donc, on peut vraiment dire que c'est une crypto-banque. Ouais.
Ok, et c'est intéressant d'ailleurs parce que eux, avant que vous veniez les voir, c'était quoi leur alternative pour en termes de wallet?
Fireblocks.
Fireblocks, ok.
Ouais.
Ok, ouais, donc il y avait déjà.
Oui. Très souvent, en fait, on est benchmarké contre Fireblocks. Et effectivement, Fireblocks est une solution qui est très populaire chez tous les acteurs réglementés pour une raison qui est, bah, pour plein de raisons. Déjà, c'est une solution qui était très early sur le marché, qui a grossi ra très rapidement. Donc, d'un point de vue réputation, ça rassure de se dire, si je prends Fireblocks, aucun risque, du coup, je, en tout cas, s'il se passe quelque chose, c'est pas de ma faute, tout le monde prend Fireblocks, tu vois, tu as cet effet réseau qui se crée. Mais tu vois, jusqu'en 2021-2022, on va dire qu'on avait à chaque fois, quand on pitchait le pro, il y avait trois feedbacks quand on pitchait Defense jusqu'à ouais, mi-2022. C'était le premier, c'était. On a monté le setup nous-mêmes. Donc, il y avait beaucoup de do-it-yourself et de setup fait à la main avec quelques ledgers et un Gnosis Safe ou avec un KMS, un AWS KMS. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, et puis sur la partie B2B2C, il n'y avait juste pas de solution. C'est-à-dire qu'on laissait ces end users onboarder avec MetaMask ou avec n'importe quel seed phrase. Donc un mnemonic wallet. Le deuxième feedback qu'on avait, c'était bah, Fireblocks qui commençait à monter. Donc Fireblocks commençait sur la solution B2B de Trezo. Donc B2B FinTech, on les voyait beaucoup. Et le troisième feedback qu'on avait aussi à ce moment-là, c'était aussi chez des plus gros acteurs, des gens qui leveragaient des solutions HSM, parce que par exemple dans le monde bancaire, en fait, on fait de la sécurisation de clés depuis 50 ans, depuis les années 70. C'est vraiment quelque chose qui est très connu de toutes les CISO, de tous les CISO, pardon, du monde bancaire. Et en fait, quand un CISO entend une demande, on doit manager des clés privées. À l'époque, et surtout voilà, entre 2019 et 2022, le feedback naturel, c'est ah, ben, on a des HSM, on va s'en occuper via du hardware security module.
D'ailleurs, est-ce que pour l'audience, tu peux rappeler ce que c'est le HSM?
Ouais, le HSM, bah, c'est la technologie que leverage un acteur comme Ledger. C'est en fait, les HSM ont été créés à la base pendant la Seconde Guerre mondiale pour en fait pouvoir sécuriser des clés d'encryption. Et le but en fait d'un HSM, c'était si ta clé est corrompue, pouvoir détruire ce device. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de très physique. Tu pouvais t'abstraire ou pas de cet outil de sécurité. Ensuite, dans les années 70, ils deviennent standardisés. En fin des années 80, début 90, NIST crée un standard FIPS autour des HSM. Et là, en fait, donc HSM, encore une fois, Hardware Security Module, sont des outils physiques qui permettent du coup de manager des clés d'encryption. Et donc voilà, et donc c'est très populaire dans cette industrie financière, sauf que c'est intéressant pour un des use cases d'encryption, puisqu'en fait, tu sors très peu ta clé d'encryption, tu décryptes et encryptes tes informations. Pas à la minute, t'as un usage qui est assez modéré de ces outils-là. Dans le cas d'usage des actifs digitaux, c'est plus le même cas. Et donc, c'est pour ça que les solutions d'HSM peuvent être intéressantes dans certaines conditions, mais quand tu as besoin d'avoir un accès fréquent à ta clé, des solutions plus de hot ou warm storage, dépendamment de la façon dont elles sont mises en place, sont plus adaptées.
Ok. Et d'ailleurs, donc pour venir sur Fireblocks, parce que j'ai l'impression que c'est votre concurrent aujourd'hui le plus frontal, c'est quoi votre élément différenciant concrètement face à un Fireblocks?
Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Alors, premièrement, on va parler de cas d'usage. Aujourd'hui, Fireblocks, c'est une solution qui est davantage B2B, qui est beaucoup moins adaptée aux cas d'usage B2B2B, B2B2C. Donc, on voit surtout Fireblocks pour des sujets de trésorerie, pour des sujets de conservation d'actifs numériques, chez des asset managers, chez des hedge funds. Là, c'est vraiment on va dire le bread and butter de ce produit-là. Aujourd'hui, nous, Defense, on est une solution qui. Ça fait 3 ans et demi qu'on travaille sur nos API. Donc, on a les API les plus programmatiques du marché. Tu peux absolument tout faire avec nos API. Tu peux contrôler tes policies, tes permissions. On a tout un système de transactions intégré justement au cœur du réacteur qui est la sécurité, du coup, aux signers, à notre MPC, qui est très modulaire avec des solutions qui n'existent pas, par exemple, chez Fireblocks, comme le Transaction Broadcasting, qui te permet en fait de juste transacter, de broadcaster, pardon, ta transaction sur des chains, et on est intégré avec 25 chains, donc avoir, on va dire, un niveau assez bas d'intégration.
Alors, juste petite question, est-ce que tu pourrais expliquer ce que c'est le Transaction Broadcast?
Oui, et je vais essayer de prendre un peu de recul pour pas noyer tous tes auditeurs sur en fait une fonctionnalité qui est assez technique. En fait, cette fonctionnalité-là, ça sépare en fait le monde des fournisseurs de solutions de sécurisation d'actifs numériques en deux. Donc, d'un premier côté, tu vas avoir le monde des solutions de gestion de clés. Par exemple, en France, tu as Thales qui est évidemment un champion sur ces sujets-là. Ils le sont depuis des décennies. Toutes les banques ont besoin de solutions de génération de clés et interagissent avec ces solutions qui d'ailleurs viennent souvent du monde militaire. Ça existe depuis encore une fois les années 70. Et en fait, ça va te permettre de générer une clé, de la conserver et de produire une signature. C'est tout. De l'autre côté, et maintenant depuis surtout une petite dizaine d'années, tu as ce que j'appellerais vraiment le monde des fournisseurs de solutions technologiques adaptées au cas d'usage des actifs numériques qui, eux, vont te permettre d'aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont construire les ponts entre ta clé que tu sécurises et que tu génères et la blockchain sur laquelle tu vas pousser ta transaction, sur laquelle tu vas broadcaster ta transaction. Et là, en fait, contrairement au simple key management service pur et dur, ce qui va se passer, c'est que cette signature-là va pouvoir interpréter, parler la sémantique de la chaîne et va permettre, en fait, par l'usage de modules, de templates, de comprendre la donnée de la chaîne et va permettre aux développeurs de l'interpréter et d'interagir avec elle intelligemment. Et ça simplifie la développeur expérience. Par contre, juste peut-être un petit point, ce que les gens ne savent pas, c'est que généralement, quand tu vois que tu as une solution qui est intégrée avec une chain, sans chain, tu assumes que tu peux tout faire et que ton fournisseur va pouvoir te permettre de complètement interagir avec ces blockchains. Et en fait, tu as un monde parfois entre un niveau d'intégration d'une blockchain par un fournisseur donné et un autre. L'écart vraiment entre une intégration complète et une intégration minimale va te permettre tout simplement de faire des choses comme simplement transférer un token et en faire son retrait. Donc ça veut dire le niveau 1, ou le niveau qui va te permettre de gérer des transactions beaucoup plus complexes, c'est-à-dire interagir complètement, par exemple, avec un smart contract. Et nous, quand on parle de transaction broadcast, qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est qu'on a permis, en fait, on a construit une interface générique, qui va te permettre de gérer et de déployer tes smart contracts sur toutes les chaînes que nous supportons. Un seul template, toutes les chains, et ton développeur n'a plus besoin d'aller comprendre la blockchain, de s'intégrer directement avec elle. Nous, on le supporte. Et c'est pas simplement ça, c'est évidemment le template, la facilité d'intégration, mais c'est aussi derrière toute l'infrastructure. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est intégré avec plus de 5 fournisseurs tiers qui nous permettent d'accéder à leur RPC node pour évidemment écouter cette blockchain, l'indexer et transmettre à nos clients toutes les informations dont ils ont besoin pour construire les cas d'usage. Et très simplement, je vais essayer de parler concrètement de cas d'usage. Aujourd'hui, tout cas d'usage de tokenisation, donc des plateformes comme Tokeny, Dogo, Bridgesplit, ce qu'elles font, c'est parfois elles sont absolument monochain, mais en fait, elles essayent de d'étendre leur capacité sur plusieurs chains. Et nous, ce qu'on va permettre, c'est avec un seul template qu'elles puissent interagir avec toutes les blockchains sur le cas d'usage de la tokenisation. Tokenisation, c'est un bon cas d'usage, puisque évidemment, l'utilisation de smart contract est centrale, mais tu peux avoir aussi la tokenisation de produits, comme ce que fait un, comme le cas d'usage d'un Ariany, ou tout ce qui va être decentralized identity, où là, par exemple, on a des clients comme Didit qui interagissent avec cette fonctionnalité. Donc, en gros, pour simplifier, si je peux me permettre, et la raison pour laquelle j'insiste un petit peu là-dessus, c'est que moi, après avoir passé plus de 4 ans dans cet espace et surtout dans une industrie qui est naissante, Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a toujours un monde entre ce qui est affiché et ce qui est réel, et que quand tu vois que ton fournisseur supporte 25 chains, le diable est dans les détails et le niveau de finesse pour en fait comprendre ces fonctionnalités est extrêmement important. Et c'est ce qui fait que nous, chez Defense, on a vraiment, tu vois, sur notre, ce qu'on couvre, on couvre évidemment la partie key management service, c'est que nous aussi, on peut juste gérer la clé, mais on va très très loin. Et d'un point de vue développeur experience, bah, ça va te permettre de complètement limiter tout ce que tu vas construire en interne pour supporter ton cas d'usage et vraiment te focaliser sur, bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je développe au-dessus, l'interface expérience par rapport à son utilisateur et tout ce qui va autour de la gestion de ton smart contract et de son, et de son, et de sa gestion et de son et de la façon dont il a interagi avec la chain.
Et c'était le premier gros élément différenciant par rapport à Fireblocks, et tu sais qu'il y en avait d'autres aussi.
Oui, alors on parle aussi de la latency de notre MPC. Donc aujourd'hui, nous, on a investi très tôt. On va dire, ça fait 4 ans qu'on investit en R&D. On a des cryptographes in-house qu'on a été chercher dans les meilleures universités. Ça a été vraiment aussi ça, un sujet d'aller recruter une équipe qui soit une des équipes les plus expertes sur nos sujets de MPC. Et d'ailleurs, tu vois, tous nos investisseurs n'étaient pas forcément alignés avec cette stratégie, puisqu'aujourd'hui, tu as des librairies open source. Et donc, au début, on avait cette question de, mais en fait, pourquoi vous ne leveragez pas une technologie qui est open source? Pourquoi avoir besoin que ce stack-là soit propriétaire? Et en fait, pour nous, c'était assez évident depuis le début que le MPC, comme on le connaissait, était une technologie qui avait besoin de beaucoup plus de recherche et de travaux de R&D pour améliorer des performances, notamment sur le sujet de la latency, au niveau de la génération de ton wallet et du temps de signature. On pensait à des use cases ou de scalabilité où tu aurais besoin de, bah, tu vois, tu commences à les voir dans le ticketing. Si tu fais du ticketing sur du NFT et que tu as 20 000 tickets qui sont vendus à la minute, tu as besoin d'avoir une solution derrière qui soit capable de signer ces transactions et de processer des nombres de transactions qui sont, on va dire, assez en ligne avec ce que tu peux voir avec des Mastercard, des Visa et ce type de d'acteurs. Donc nous, aujourd'hui, on a un MPC qui est extrêmement rapide. On a pu développer notre propriété, notre stack propriétaire. Donc on leverage le même papier que Fireblocks, qui est le CGGMP 21, qu'on a nous implémenté pardon, en Rust, ce qui le rend déjà un peu plus sécure. On a pu du coup, grâce au fait de maîtriser ce stack, créer des features comme ce qu'on appelle les pré-signatures, des pre-sigs, qui nous permettent de pouvoir générer un wallet en dessous d'une seconde. Ça, c'est des acteurs. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des acteurs qui sont des acteurs davantage, pas du monde de la finance, mais du monde du consumer, qui nous ont fait travailler sur ces sujets. Puisqu'en fait, quand tu vends à un Breitling, quand tu vends à un Carrefour, quand tu vends à n'importe quel type de large consumer, large industrial company, le fait que son expérience Web3 va ressembler à son expérience Web2, bah, il faut derrière que la tech suive. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir sur ton application ton wallet qui met 7 secondes à générer avant que tu reçoives ton NFT. Et en fait, c'est ces acteurs-là qui nous ont fait beaucoup travailler, et notamment des acteurs comme Ariany. Qui vend qu'à ces acteurs-là. Et donc, on est arrivé sur ce type de performance. Et nous, quand on a vu ces demandes de marché, on a décidé d'aller plus loin. Et on a développé maintenant un algorithme qui est un nouvel algorithme MPC propriétaire qui nous permet d'atteindre des niveaux de performance qu'on voit à peu près, tu en es à 2000 à 3000 fois plus rapide de ce que tu vois dans les stacks classiques, type un stack de Fireblocks aujourd'hui. Donc ça c'est quelque chose qui est extrêmement important. Pas, je dirais, aujourd'hui on commence à le voir, mais quand tu penses à un monde où cette technologie est adoptée sur des use cases qui sont des use cases quotidiens et sur une sur, quand tu avec des millions et des millions d'utilisateurs, ça devient absolument crucial. Donc pour les use cases de paiement, c'est important. Pour les use cases consumer, c'est important. Et on commence à voir aussi sur l'automation de use case de tokenisation aussi, où tu peux avoir aujourd'hui des volumes énormes sur des sujets de cash tokenisé et donc avoir besoin effectivement de signatures qui soient extrêmement rapides. Donc on passe, tu vois, on part de ce qu'on a en tête aujourd'hui, c'est produire une signature toutes les 0,5 millisecondes. Donc on est sur des batchs où quand la technologie sous-jacente pourra aussi, enfin, et sur les mêmes niveaux, tu peux effectivement être comparable à des volumes de Mastercard et Visa. Donc ça c'était un point important. Donc on a parlé donc de features, on a parlé de latency,
Et
mais de
juste d'ailleurs,
façon, ouais.
sur la partie latency, ce que je trouve ça vraiment intéressant, c'est vrai que, par exemple, j'avais un exemple en tête, c'est tu réserves un événement enfin un événement et ton ticket c'est un format NFT. Effectivement, si ça prend 40 secondes, bon bah, et que t'as un loader de 40 secondes, comme tu le disais, bah c'est catastrophique en termes d'expérience utilisateur. Donc, bah, pour simplifier entre guillemets l'expérience utilisateur, certaines apps Web3 pourraient entre guillemets dire oui, votre NFT a été généré, alors que c'est pas vrai, en attendant qu'il le soit vraiment. Ça pourrait être un petit hack, mais en tout cas, vous avez vraiment ce côté instantanéité. Après, j'imagine que ça dépend aussi peut-être de la rapidité de la blockchain en
Oui,
question.
et bien sûr, ça dépend de deux choses. C'est-à-dire que quand je te parle de ça, je te parle du MPC. Ça dépend du networking, donc ça va dépendre aussi de la façon dont tu communiques avec notre API déjà. Ensuite, la façon dont un développeur va communiquer avec notre API. Donc, si la façon dont est structurée l'application de notre client n'est pas performante, on ne va pas réussir à approcher ces niveaux de performance. Et comme tu dis, ça va dépendre de la technologie et de la blockchain sous-jacente que tu utilises. Aujourd'hui, on voit que sur des Solana, tu as des niveaux de transactions extrêmement importants sur lesquels notre type de solution pourrait commencer à être favorable. Mais effectivement, si tu as un temps de bloc de 10 secondes, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, effectivement, c'est là où tu vois que certaines blockchains vont se spécialiser sur certains use cases. Et le sujet de la latency, c'est pas un sujet pour tout le monde, mais c'est un sujet qui est important sur certains use cases, que tu vas pouvoir aussi résoudre sur des layers 2 et des layers 3, et qui va pouvoir du coup améliorer la performance du temps de transaction. Mais nous, ce qu'on se dit, c'est que de toute façon, et on a toujours eu cette attitude-là, c'est qu'on se prépare pour le futur. C'est-à-dire qu'on est en train de construire une technologie qui est une solution d'infra et on doit être un enabler. Et tout le monde va suivre et évidemment que les performances vont s'améliorer. Et donc en fait, on ne s'est jamais dit, ah bah tiens, tout le monde est n'importe quoi sur Ethereum ou sur Polygon, le block time il est de X, du coup ça sert à rien de faire mieux. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On réfléchit vraiment en se disant aujourd'hui, bah, tu as des gens qui sont sur des. Aussi, des, on a des acteurs qui nous utilisent. Bizarrement sur des blockchains privées, tu dirais ton sujet de la sécurisation des clés n'est pas le même, mais ils n'ont juste pas envie de se mettre à manager leurs clés tous les 4 matins. Voilà, donc tu peux avoir différents cas d'usage et en fait notre vision c'est d'être extrêmement agnostique en termes de sous-jacent, en termes de blockchain et de pouvoir vraiment enabler tous ces use cases financiers.
Ok. Et pardon, donc je t'ai coupé sur la partie.
Oui. J'aurais dû commencer par ce troisième point, parce que c'est un point assez fondamental, mais comme on parlait de features, j'étais sur ces sujets de features. En fait, ce qui est vraiment fondamental comme différence entre un Fireblocks et un Defense, c'est la façon dont on a implémenté, nous, la technologie, le MPC. En d'autres termes, aujourd'hui, tous les acteurs qui implémentent le MPC l'implémentent avec un modèle co-custodial. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont partager des morceaux de clés entre eux et le client final. Et donc, pour signer, tu as besoin que la clé côté serveur Fireblocks signe et tu as besoin que la clé côté user signe également. Donc, soit présente et interagisse au moment de la signature. Généralement, c'est des modèles de MPC qu'on appelle, alors, qui sont sur 3 sur 3 ou 3 sur 4, parce que parfois, tu as une clé qui sert à faire de la redondance chez un acteur qui fait comme Concover, qui va s'occuper de faire un backup de cette clé-là. Peut-être qu'il faut que je m'arrête ici et que j'explique ce que c'est que ce 3 sur 3. 3
Ouais,
sur...
c'est ça.
Ouais,
Yes.
ok. Alors, le MPC, qu'est-ce que c'est? Ça va te permettre de générer ta... Auriel, on en a déjà parlé. Donc, ça va te permettre de générer ta clé en morceaux sans avoir un dealer central. Donc, comme tu n'as pas de dealer central, tu n'as pas une partie qui prend la clé et qui va la partager et ensuite la distribuer. Les morceaux de clés sont générés sur différents serveurs, en fait, ou ça dépend de l'implémentation, mais en tout cas, il n'y a pas de dealer central dans le MVC. Donc, ce qui est magnifique, c'est que tu n'as pas de point unique de défaillance. La clé est de façon native générée en morceaux, en d'autres termes. Pour pouvoir signer une transaction, on utilise ce qu'on appelle du threshold signature, donc la signature à seuil. Et là, en fait, tu vas définir un nombre de morceaux de clé dont tu as besoin pour signer une transaction. Tu peux dire j'ai besoin de 2 morceaux sur 2. J'ai besoin de 2 morceaux sur 5, de 2 morceaux sur 100. Et en fonction du coup de ton threat model, donc la façon dont tu vas définir les enjeux de sécurité dans ton organisation, donc ton framework de sécurité, tu vas définir ce seuil-là. Ces acteurs, ces premiers acteurs qui ont travaillé sur le MPC, comme ils ont utilisé en fait le MPC comme un modèle co-custodial, ils ont défini un seuil pour signer la transaction qui était égal au nombre de morceaux générés. Donc, tu as besoin de 2 morceaux sur 2 générés pour pouvoir signer une transaction. C'est-à-dire que tu as besoin que toutes les parties soient réunies. Et ça, c'était hyper important parce que ce que voulait prouver un acteur comme Fireblocks, c'est que lui tout seul ne pouvait pas générer une transaction, mais que son utilisateur non plus tout seul ne pouvait pas le faire. Et donc, il y avait bien une forme de sécurité et de résilience dans le modèle. Avec une clé, Fireblocks pouvait régénérer un autre morceau de clé si jamais l'utilisateur la perdait, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment les premiers modèles de MPC. Donc on est sur des modèles co-custodiaux qui, du coup, vont partager ces morceaux-là entre le client ou l'utilisateur final et le fournisseur de service. Nous, on est arrivé sur ce marché en se disant, en fait, on pense profondément que ça n'a pas de product market fit. Pourquoi? Soit tu es un développeur ou tu es une SMB. Et en fait, en interne, tu n'as pas de compétences en sécurité. Tu n'as pas envie même de te mettre à manager un morceau de clé. C'est stressant, c'est anxiogène. Il faut y mettre en place encore une fois ce morceau de clé. Il devient très important. Donc, si quelqu'un y a accès, il peut aussi signer une transaction on behalf de l'utilisateur. Et donc, tout ce bas du marché veut une solution qui soit entre guillemets fully managed. Ce qu'ils veulent, c'est un accès à leur portefeuille numérique sans avoir le poids de gérer ce matériel entre guillemets radioactif qui est la clé privée. Donc ça, voilà, ça c'est un peu notre constat. Et quand tu vas voir des acteurs qui sont des plus gros acteurs, comme les Tier 1 Banks, les Tier 2 Banks, eux, ils veulent tous ces morceaux de clé chez eux. Parce que pour des raisons de sécurité et de conformité en interne, des raisons réglementaires, ils veulent pouvoir prouver que seuls eux ont accès à ces morceaux de clés. Et donc en fait, ce partage de morceaux de clés n'a pas beaucoup de sens. Tu veux pas avoir, en fait, tu veux pas te balader avec ton téléphone et avoir ton morceau de clé sur ton téléphone, c'est juste trop stressant. Et donc en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de générer ces morceaux de clés sur un réseau pair à pair. Distribués de serveurs qui chacun font la conservation des morceaux de clé de notre client. Et en fait, ce qui te donne l'accès à ton portefeuille numérique, c'est l'authentification que tu vas faire via notre API, qui est elle-même basée sur de la cryptographie. C'est-à-dire que tu as une autre clé sur ton téléphone, une clé privée aussi, mais qui n'a rien à voir avec la clé qui est on-chain. C'est une clé qui va permettre, en fait, de générer localement sur ta machine un secret qui est unique. Nous, Defense, on n'a pas accès à ce secret-là. Potentiellement, une plateforme qui voudrait justement faire du B2B2C, donc donner un wallet à un end-user, n'a non plus pas accès à ce secret-là, puisque ce secret-là est généré localement sur le téléphone ou l'ordinateur de l'utilisateur final. Et de cette façon, tu garantis bien le fait que tu as cryptographiquement, toutes les transactions sont signées, c'est-à-dire qu'on a un record de c'est bien la clé qui était sur le téléphone qui a signé la transaction et personne d'autre. Tu garantis bien le fait que potentiellement une plateforme au milieu ne peut pas mouvoir les fonds des actifs des utilisateurs de son web parce qu'il n'a pas accès aux secrets qui sont sauvés sur les utilisateurs. Mais si tu perds ton téléphone, tu perds pas ta clé. Tu perds juste ton accès à l'API qui peut être régénéré par d'autres services d'authentification. Et alors là, Nous, on est assez flexible et tu peux le faire différemment. Ça peut être via un KYC, ça peut être exactement comme un One Password. Tu sais, quand tu t'onboardes sur One Password, on te donne une clé, tu dois garder cette clé-là. Si jamais tu perds accès au One Password, il faut que tu remettes ta clé et tu régénères du coup tes authentifications. Et donc ça, c'est vraiment c'est fondamental comme différence parce que ça change complètement ça change complètement les compétences en interne que tu dois avoir pour bien gérer ton infrastructure de wallet. C'est plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'avoir un ingénieur qui va être un DevOps ou qui va être un security engineer qui va faire attention au setup parce qu'en fait, il y a de la private key matériel absolument partout dans le back-office et chez les traders et chez les développeurs d'une entreprise. Et on voit que ce modèle-là, en fait, il fait beaucoup de sens. Il fait beaucoup de sens sur la partie, encore une fois, sur la partie développeurs, SMBs. T'entends un ouf de soulagement quand tu présentes ce modèle-là. Et en fait, comment on sert le marché institutionnel? Bah, ce réseau que nous, on a construit, il peut se développer on-prem. Donc, on peut déplacer ces signers chez des acteurs qui veulent avoir, eux, toute la mainmise, on va dire, sur les morceaux de clé.
Ok, très clair. Et d'ailleurs, ça m'amène à me poser la question de comment vous positionnez. Alors, c'est peut-être pas le même positionnement, mais un acteur comme Magic, Magic Link, hein, qui permet aussi de, qui fait aussi du MPC.
Non.
Ouais, non, c'est pas du tout
Non,
le. Alors,
Magic fait pas du
parce
MPC, mais ils font du
que. Ok.
self-custodial wallet et ils ont un autre setup. Ils utilisent davantage, il me semble, hein, ils ont peut-être évolué, mais en tout cas, c'est sûr qu'ils font pas du MPC, mais ils utilisaient une solution de hardware propriétaire. D'ailleurs, je pense qu'ils ont développé un brevet sur ce sujet-là. Et en fait, ils le wrappaient via un Magic Link qui crée l'authentification à ton wallet.
Oui.
Et aujourd'hui, je crois d'ailleurs qu'ils ont aussi un système de passkeys qui peuvent être intégrés à leur infrastructure.
Ok.
WebTruth fait du MPC aujourd'hui.
Ouais. Ok. Et c'est intéressant parce que tu parlais de réseau décentralisé. Bah, on pourra en reparler après. Pour venir un peu sur justement votre parcours, une fois que vous avez eu du coup ces premiers clients, on parlait de Nilos, de Mont Pèlerin. Ça a été quoi? Enfin, j'imagine qu'après vous avez réussi à monétiser. Comment d'ailleurs vous avez réussi à définir votre business model? J'imagine que c'est peut-être par. Enfin, d'ailleurs, c'est intéressant ouais, que tu donnes ton feedback là-dessus. C'est quoi le business model?
Ouais, ça c'était aussi un des sujets différenciants. Si on avait fini sur les il y en a d'autres hein, avec Fireblocks, on n'a pas fini la liste, mais un des sujets
Ouais.
différenciants, c'est aussi le pricing model. Et ça c'était une évidence absolue. Moi, quand je suis rentrée sur ce marché, je suis rentrée avec des yeux de banquière qui a pu sur certains deals cross-seller ou vendre pardon des services de conservation à des grosses entreprises et des grosses institutions financières. Et ce que tu vends, c'est tu le prices sur tes meilleurs clients, tu le prices entre 1 et 5 basis points sur le volume de transactions. Donc ça, c'est ce qu'un service financier va facturer à son client quand il vend un service de conservation financière. Aujourd'hui, tu as des fournisseurs de services technologiques qui facturent plus que ces bases-là à des clients qui derrière sont des banques ou sont des conservateurs pour d'autres clients qui doivent en plus faire une marge par-dessus. Ça marche pas, en fait. Ça
Compliqué,
marche
ouais.
pas. Ça marche juste parce qu'on est sur des concepts où il y a, en fait, aujourd'hui, chez les plus gros acteurs, on est sur du POC et ils sont pas encore dans une logique
De
d'être
scaler leur
profitable sur ces
activité,
produits,
ouais.
ouais, ou d'être profitable sur ces produits-là. Ça marche parce que quand tu es un hedge fund, que tu payes 20 bips, pardon, 20 basis points, sur ce que tu as à ton fournisseur de services technologiques, tu l'intègres dans ta marge et puis ça peut fonctionner. Mais en fait, ça ne marche pas quand tu veux permettre à des fintechs de développer des services financiers sur ta solution. Et en fait, nous, on est arrivé du coup avec un regard vraiment différent qui est on est un fournisseur de services technologiques. Point barre. On n'est pas un service financier. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit facturer notre technologie. Donc, ce qui nous intéresse, c'est Le portefeuille que tu génères, c'est ton activité, le nombre de signatures que tu fais, le nombre de personnes qui ont accès à l'API, le nombre de blockchains que tu vas vouloir leverager, et puis après des features qui vont être spécifiques, comme est-ce que tu veux avoir ton backup on-prem, est-ce que tu veux pouvoir exporter tes clés, est-ce que tu vas pouvoir les importer, etc., etc. Donc tu vois, c'est une logique qui est beaucoup plus comme un cloud provider, comme un AWS. D'ailleurs, moi, je rêve quand on connaîtra vraiment bien quand les cas d'usage seront plus scalables, plus gros, et qu'on aura une meilleure connaissance de tout notre base commerciale. Je rêve qu'on ait une forme de roulette, tu vois, où en fait le prix est tellement clair que tu rentres ton activité et on te dit exactement comment tu vas scaler, et tout est extrêmement transparent. Donc ça, pricer comme un fournisseur de services technologiques, c'est-à-dire pricer ta tech et pas pricé comme un service financier, c'était absolument important, et c'est un point très différenciant avec les acteurs comme, enfin, les acteurs, les usual suspects des vendeurs aux institutions financières. Deuxièmement, transparence. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai fait ma première user research en 2020, et que j'ai commencé à interviewer, à l'époque, quasiment que des clients de Fireblocks et quelques clients de BitGo. Mais ce qui me paraissait incroyable, c'était la différence de prix d'un client à l'autre. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une logique de vente très, entre guillemets, old school B2B, où chaque client avait son prix parce qu'il était arrivé à un moment donné où que le vendeur avait été meilleur à droite ou à gauche. Et ça aussi, pour moi, c'est pas comme ça qu'on montait du software en 2020, et c'est pas comme ça que tu pouvais amener de la trust, en fait, et pouvoir créer autour de ton produit une adhésion. Et donc, du coup, nous, dès le jour 1, on a eu nos prix qui étaient en ligne sur notre site. Donc, tu as le basic plan, le pro plan. Sur l'entreprise, on ne peut pas le mettre parce que ça dépend de beaucoup de critères, mais ça dépend de critères qui ont un prix chez nous, et c'est comme ça qu'on facture. Donc, ça a été, on va dire, sur le. Donc, tu parlais de pricing model, c'est vraiment on va dire, les deux choses qui étaient importantes pour nous. Et tu vois, quand on regarde un peu l'évolution sur les cas d'usage qu'on onboard, et comment je vois ces prix évoluer, tu vois, pour moi, j'aimerais qu'on arrive un jour à une situation où, en fait, c'est vraiment davantage l'activité qu'on charge. C'est-à-dire, c'est plus la signature que le wallet, parce que, in fine, tout ce qu'on entend à chaque fois quand on a des acteurs qui sont des néobanques qui vont commencer, par exemple, à introduire de la crypto, des petites banques privées, ou des start-upeurs qui lancent leur échange, ce qu'ils me disent, c'est oui, mais tu vois, peut-être que je vais avoir 500 000 utilisateurs au bout de 6 mois, et j'en aurai que 50 000 actifs. Et j'ai pas envie de payer pour 500 000 wallets. Donc, en fait, vraiment essayer de trouver ce modèle autour de l'activité, c'est-à-dire autour de la signature, c'est des choses qui nous paraissent être pérennes pour l'avenir sur la partie business model.
Et d'ailleurs, ouais, c'est vrai que cette logique hein, de facturer à l'activité, en tout cas pas au volume d'affaires, c'est vrai que ça va dans la même logique que les blockchains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que tu fasses une transaction à 1 $ ou 1 milliard, tu payes les mêmes frais en
Mais
fait.
bien sûr. Un cas d'usage sur lequel ça n'a absolument zéro sens, et parfois je suis encore assez étonnée que mes compétiteurs qui price comme ça arrivent à vendre à des cas d'usage de tokenisation. En fait, quand tu es un émetteur, que tu sois être chargé 5, 10, 20 bips sur un actif sous-jacent sur lequel tu as aucun contrôle, parce que ton métier, c'est pas ça, en fait. Ton métier, c'est pas, tu fais pas de prix sur le volume, mais tu fais de prix sur la transaction que tu vas structurer. Ça fait encore moins de sens. Donc, tu vois, aujourd'hui, nous, ça fait une petite année qu'on travaille beaucoup sur les sujets de tokenisation. Et sur les sujets de tokenisation, nos deux USP, c'est la partie complètement programmatique, tout est automatisé. Et deuxième, c'est le pricing model. C'est clair, tu peux construire ton business model, t'es pas dépendant. Si demain tu fais une émission à 100 millions et après-demain elle fait plus que 10 000 euros, tu sais comment construire ta structure de coût, en fait. Donc ça, c'est hyper important.
Ok. Et Pour venir donc sur le, enfin l'avancée des FNS, de Defense, pardon, je suis retombé dans mes travers. Vous avez levé des fonds en 2022, mais déjà en 2020-2021, vous sentez, une fois que vous avez vraiment eu ces trois design partners, vous avez trouvé un peu la bonne formule avec eux. Comment s'est passé pour onboarder des nouveaux clients? Vous avez fait du, enfin, comment ça, d'ailleurs, vous avez attiré les autres clients par la suite?
Nous, tu vois, on a toujours pas commencé, on a toujours pas commencé le marketing.
Ok.
Là, on sort notre nouveau site qui correspond beaucoup plus à ce qu'on est aujourd'hui et qui est extrêmement documenté. Et on sort notre blog aussi. Et donc là, on va vraiment commencer à produire du contenu. Et c'est quelque chose qu'on a préparé depuis très longtemps. Si on a décidé, tu vois, c'était très stratégique pour nous, c'est-à-dire qu'on voulait pour nous un acteur de la confiance, un acteur qui parle de ce qu'il sait faire une fois qu'il est sûr de ce qu'il sait faire, et pas qui annonce un partenariat pour annoncer un partenariat et qui parle de cas d'usage s'il maîtrise pas ses cas d'usage. Et donc en fait, on avait vraiment envie de construire un produit, construire un actif avant de parler de cet actif. Et aujourd'hui, on a un retour client qui est excellent. Quand on est benchmarké sur notre tech contre nos principaux compétiteurs, on gagne 8 fois sur 10. Donc on commence à vraiment être très sûr de notre produit. Et donc c'est le bon moment pour faire du marketing. Mais donc du coup, comment on a fait? En fait, tu vois, en 2022, en fait, on a toujours un peu eu cette approche d'observer et ensuite de se refocaliser. Et donc, par exemple, comme on voulait faire, comme je te disais, un go-to-market qui soit très start-up, très, très, très développeur focus pour pouvoir apprendre et itérer rapidement sur les features, on a onboardé au dernier trimestre 2022 beaucoup d'entreprises sur des cas d'usage très différents. Et ce qu'on s'est rendu compte, et ça, on s'est rendu compte Q1, Q2 2023, parce qu'on a eu commencé à avoir du churn de ces acteurs-là. Alors, pour beaucoup de raisons, en 2023, année du chaos. Donc, on a eu beaucoup de startups qui n'ont pas réussi à lever leur tour, beaucoup de gens qui ont décidé de pivoter parce que le Web3, c'était plus à la mode, etc. Donc, il y a eu toutes ces deux vagues-là. Mais aussi, on a surtout réalisé une chose qu'on aurait pu réaliser avant, mais qui est très simplement que les acteurs nous choisissent soit parce que ils ont beaucoup à perdre en termes d'actifs, donc ces acteurs qui sont du monde de la finance, en gros, des fintechs, soit parce qu'ils ont beaucoup à perdre en termes de réputation. Mais si tu es un jeu qui veut juste faire, tu vois, authentifier rapidement tes utilisateurs et qui, en fait, n'a pas beaucoup enfin, j'ai le mot care en anglais, mais ne porte pas beaucoup d'intérêt ni à sa réputation, ni n'a pas beaucoup de valeur sur ses wallets, on n'est pas la bonne solution. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on s'est refocalisé pour vraiment être le wallet as a service de la fintech, avec comme élément différenciant par rapport à notre compétition. Aujourd'hui, on est un positionnement assez unique parce que on a une infra qui est, tu sais, on parle d'institutional grade, donc on est comparable au Fireblocks, Metaco, Taurus d'un point de vue sécurité de l'infrastructure, mais on a développé un produit aussi très retail. Donc c'est pour ça qu'on est parfois comparé à un Web True Off. On a pu, beaucoup moins aujourd'hui, parce que Magic est aujourd'hui vraiment dans une catégorie qu'on suit pas trop. Sur certains use cases, oui, par exemple le ticketing, ça c'est des sujets qui nous intéressent, que des sujets de volume et qui est des sujets qui ont besoin de performance vraiment et qui vont en avoir besoin de plus en plus. Donc par exemple sur ces sujets-là, on peut avoir des acteurs qui ont pu commencer par un Magic et qui commencent à regarder l'infrastructure de Defense quand ils deviennent plus matures. Et donc, en fait, on est un peu assez unique parce que sur cette partie B2B2C, Wallet as a Service de la fintech, en fait, il n'y a pas grand monde. Il y avait un espace à prendre et qui était exactement, en fait, qui correspond directement aux forces de notre produit. Tu vois, depuis l'été dernier, on va onboarder des acteurs qui sont, voilà, surtout. Aujourd'hui, 25% de notre customer base, c'est du payment, donc payment infrastructure ou des payment apps. Ensuite, on a à peu près 15% sur la tokenisation. On va avoir 15% aussi sur tout ce qu'on va de, 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 Asset Management Platform, et donc là on parle plutôt de Treasury Management Platform, de néobanque, qui est là plutôt dans un sujet B2B. Et le reste, ça va être des sujets retail, que ce soit des gros sujets retail, large consumer brand, ou des sujets retail, néobanque. Et donc voilà à peu près aujourd'hui comment se construit notre consumer base. Mais donc du coup, avec beaucoup de word of mouth, donc on a pu créer justement cet effet positif par recommandation des clients. Donc ça, c'est vraiment, c'est, on va dire, sa principale raison pour laquelle les clients aujourd'hui viennent nous voir et on reçoit de l'inbound. Et ensuite, c'est vrai que le fait d'avoir investi énormément, nous, on a eu vraiment très tôt une marketing stratégie qui était drivé par les gens qu'on recrutait. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment recruter les meilleurs de chaque sujet d'expertise qu'on avait. Donc sur la partie MPC, sur les chercheurs, sur la partie ingénieur, sur les R&D ingénieurs, sur l'expertise. Aujourd'hui, tu vois, notre CTO, il était VP of Engineering chez Gemini, il a passé 7 ans chez Gemini, il est dans cette industrie depuis toujours. Donc ça crée aussi une réputation, et c'est vrai qu'en fait on a construit, on va dire, aujourd'hui davantage notre customer base comme ça, en fait, en attirant pour par notre produit et sur une stratégie de word of mouth. Et aujourd'hui on se sent prêt à scaler tout ça, donc on est très excité de commencer à produire un peu de contenu et à faire parler de nous.
C'est top. Et d'ailleurs, sur la partie sales, du coup, enfin, c'est toi qui t'en occupes, toi et ton associé, ou il y a des personnes dédiées aussi
Non, on est. Ben, moi, je m'en occupe. Je m'en occupe en fonction des soit des levées de fonds, soit des charges administratives, un peu plus ou un peu moins. Sinon, il y a trois autres personnes. Une personne qui est John Kennedy, qui est basée aux États-Unis, à New York, qui va couvrir toute la partie Américas. Donc aujourd'hui, on a pas mal de clients, on commence à avoir pas mal de clients en Amérique latine, avec des super références comme VitaWallet, comme Zulu. Zulu, c'est un peu le Wise sud-américain. Ils sont en train de processer 120 millions de transactions par mois. Ils font un service B2B en Colombie, qui permet à des entreprises de hedger leur balance sheet. Tu as accès à du digital dollars très facilement. Ils sont hyper successful. Donc voilà, donc toute la partie Amérique, ça va être couvert par John. Donald, lui, est avec nous depuis un bout de temps. Il est basé à Paris, mais il va couvrir davantage toute la partie Europe du Nord, Europe de l'Est. Et il a quelques clients qu'il avait en France. Et puis on a recruté une personne pour couvrir les pays français, plus toute la partie UAE, Romaric, qui nous a rejoint, qui lui est basé en Suisse, qui nous a rejoint il y a quelques mois, au mois de novembre.
Ça marche. Et alors, ouais, 2021, c'est là où vous avez commencé à avoir plus de clients. Et donc, 2022, vous avez levé des fonds.
Ouais.
Ça a été simple, sachant que, ouais, 2021, ça a été une année assez prospère pour les crypto-monnaies. Donc, du coup, j'imagine que il y avait une bonne hype. Enfin, parce que vous avez annoncé en 2022, mais ça se trouve, enfin, j'imagine que la levée s'est faite en 2021, peut-être.
Fin 2021, ouais, tu sais, tout à fait. Je dis souvent, quand on a commencé notre pré-seed, sur un call de 30 minutes, pendant les 25 premières minutes, je vais expliquer pourquoi la blockchain c'était important, et j'avais 5 minutes pour parler de ce qu'on faisait. Puis ensuite, le Bitcoin est passé de 5K à 40, et tout a changé. Et donc là, en fait, quand on a fini Techstars, qu'on a eu notre POC, annoncer notre site, on avait une term sheet 3 semaines plus tard, mais c'était vraiment l'euphorie. On était au pic de ce qu'on pouvait faire sur l'euphorie des marchés, donc avec un timing exceptionnel où on a du coup levé notre site. Et au moment du closing, on a eu des acteurs qui nous ont demandé de rentrer dans le rein. Donc on a pu étendre ce site pour faire un site qui, à la base, devait être 6 millions, de le faire passer à 12,5. Donc voilà, effectivement, et on a, je pense, on a closé en décembre 2021 et annoncé ça, ouais, en avril, je crois, mars-avril 2022.
Ok. Et donc là, l'idée, j'imagine, c'était surtout ouais, de financer la tech, enfin l'expansion. Sachant
Aujourd'hui,
que.
ouais, 70% c'est produit, c'est notre investissement.
Ok. D'ailleurs, tu me disais que vous êtes parti, tu me disais ça en off, hein, que vous êtes parti à New York avec ton associé. Et d'ailleurs, on en parlera après, ton associé qui est aussi ton mari. Et je trouve ça vraiment
Ouais.
intéressant de comprendre aussi bah, comment vous arrivez à compartimenter la vie pro, la vie perso.
Alors, on la compartimente pas. C'est ça la réponse. Non, non, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais on est assez contents. C'est-à-dire que la première année, ça a été un peu difficile sur l'ajustement pour plein de raisons. Déjà parce qu'il fallait apprendre à se connaître professionnellement. On se connaissait personnellement, mais pas professionnellement. Puis on est tous les deux des contrôle freaks, donc on a mis beaucoup de temps à se faire confiance professionnellement. Et ensuite, c'est devenu extrêmement confortable parce qu'en fait, quand tu lances une boîte et que tu as la responsabilité de ces investisseurs qui t'ont fait confiance, de la mission que tu as sur le marché qui est énorme, c'est 24 heures sur 24. Et donc, quand tu as un conjoint qui est pas dans le. Qui a pas forcément la même intensité de travail, ça peut créer des frustrations. Et moi, je sais que dans ma vie précédente, justement, avec Chris, d'ailleurs, quand lui était entrepreneur et moi, j'étais banquière, il y avait des week-ends où je me demandais. Mais... Pourquoi t'es pas à la maison?
Ouais.
Pourquoi on fait pas quelque chose ce week-end? Et là, c'est plus du tout le cas. Donc là, on est complètement alignés, on a les mêmes objectifs. Et en fait, c'est du coup, ça devient très confortable et ça te permet d'être. Peut-être que tu vois, ça cadre pas vraiment. Ça cadre pas vraiment du coup t'as moins de moments off, évidemment. C'est vrai que l'avantage d'avoir quelqu'un qui travaille pas avec toi, c'est qu'au moins tu peux apporter cet équilibre. Mais honnêtement, j'y crois pas trop à l'équilibre vie perso, vie pro en startup dans les 4-5 premières années. Ceux qui arrivent, qui me disent comment, moi j'ai l'impression que c'est quand même, et c'est, ouais, c'est très intense. Donc c'est quand même
Ouais,
très, très
j'imagine.
difficile de. Très difficile de pouvoir assurer un équilibre. Donc, ce qui nous apporte de l'équilibre, c'est les enfants. C'est-à-dire que les enfants, ça, pour le coup, ça, il y a un moment où il faut s'arrêter, il y a un moment où il faut les chercher à l'école, il faut les déposer le matin. Enfin, t'as beau être en train d'envoyer tes 50 000 messages, il faut quand même, voilà, t'as des temps fixes et puis t'as envie de passer du temps avec eux le week-end. Et donc, voilà, c'est les moments, c'est eux qui nous cadrent, en fait. Aujourd'hui, c'est nos
Yes.
enfants qui nous cadrent.
Énorme. Bah ouais, non mais ça fait complètement sens. Et d'ailleurs, tu me disais aussi en off hein, que vous êtes parti à New York donc
Oui.
à la base pour conquérir le marché américain, mais que le timing n'a pas été forcément bon. Mais bon, vous êtes quand même resté, donc preuve que c'était quand même une bonne idée.
Écoute, on est arrivé, comme je te disais, 3-4 mois avant l'effondrement d'FTX, donc tu peux faire mieux niveau timing. Et puis 2023, ça a été dur partout, mais le marché américain a été vraiment particulièrement ralenti pour des raisons réglementaires. Tout le monde est tellement dans l'incertitude que c'est extrêmement dur de lancer des projets. On a même vu des gros acteurs du gaming qui avaient des projets self-custodial ne pas vouloir les lancer parce qu'ils avaient trop peur de se prendre un procès sur la tête. Donc ouais, non, 2023, ça a été particulièrement dur aux États-Unis. Mais mine de rien, ce qu'on a réalisé, c'est qu'aussi beaucoup de fondateurs américains, parce que ils n'ont pas arrêté de travailler, et ça n'a pas arrêté d'être un environnement en émulation totale, lancer leurs initiatives à l'étranger, mais qui vivaient quand même à Brooklyn, qui vivaient quand même à Manhattan, et c'est quand même des gens qu'on a pu, tu vois, avec qui on a pu construire des relations et développer justement aussi la marque Defense dans ces réseaux-là aux États-Unis. Aujourd'hui, on pense que c'est. De toute façon, c'est un marché extrêmement résilient. Quand ça repart plus fort sur le marché américain. Donc, on pense que c'est encore important d'être ici. Il y a une autre échéance qui est hyper importante, les élections présidentielles du mois d'octobre. Hein. Ça peut aussi complètement changer la dynamique positivement ou négativement sur les 4 prochaines années. Donc, on regarde ça avec attention. Et en fait, quand on va pouvoir consolider l'équipe aux États-Unis, je pense qu'il y aura un moment où on fera notre tour en Europe. Mais oui, là, on est encore aux États-Unis pour 2, 3 ans au moins.
Et d'ailleurs, la tech team est aux États-Unis ou elle est en Europe?
Donc c'est assez partagé. La plupart de notre équipe C-level est aux US. Donc notre Chief Product Officer est à Atlanta, notre CTO est dans le New Jersey, notre head de la sécurité, il est basé à San Francisco, mais c'est un Français et qui d'ailleurs veut être rapatrié, donc à partir du mois de juin, il sera à Paris. On est content, on reconsolide l'équipe parisienne. Beaucoup de nos ingés sont à Paris, donc c'est assez varié, et tant mieux, parce qu'il faut qu'on assure, tu vois, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui aussi nos clients sont heureux avec nous, c'est le support. C'est-à-dire que tu as un support qui est assuré par nos ingénieurs, et donc ça nous permet de couvrir une time zone très large. Donc ça a été il y a des, tu vois, j'ai toujours le, moi personnellement je commence à en avoir un peu marre du full remote. J'aimerais bien qu'on puisse avoir des bureaux et se voir un peu plus souvent. Je pense pas que le full remote porte atteinte à la productivité, au contraire, je pense que ça rend, quand t'as des, une équipe qui est extrêmement senior, t'es peut-être même que tu gagnes en productivité. Par contre, ça porte atteinte à la créativité. Et donc là, tu vois, on commence à essayer chaque trimestre par équipe de se regrouper et d'essayer de se voir, parce que t'as pas le, voilà, l'idée que tu partages avec quelques collaborateurs au détour d'un café dans un bureau. Donc on essaye, les prochaines recrues, on veut vraiment les faire à Paris ou à New York pour essayer vraiment de recréer deux pôles.
Ouais, carrément. Bah, c'est vrai qu'avec le remote, à moins ces small talks, discussions de couloir ou des fois
Ouais.
desquelles peuvent émaner des grandes idées. Et pour venir sur justement cette période un peu bah, 2023, hein, qui a été une année un peu noire pour l'écosystème, comment vous avez géré ça? Est-ce que vous avez vu aussi des acteurs qui ont un peu souffert de la situation? Est-ce que vous, enfin, est-ce que vous êtes OK? Vous avez quand même levé des fonds conséquents, mais bah, l'argent, forcément,
Bien sûr.
ça baisse. Enfin, je veux dire, le compte en banque baisse, donc comment est-ce que vous
Ouais.
avez géré ça?
Écoute, 2022, donc du coup, on fait notre levée fin 2021. 2022, je présente un budget à notre board et là, tout le monde me dit, mais Clarisse, il faut brûler beaucoup plus vite. Vous êtes sûr? Oui, faut brûler beaucoup plus vite. Donc, on a été un peu plus ambitieux dans nos recrutements. Et malheureusement, bah, du coup, ce qui s'est passé en 2023, c'est qu'au mois d'avril, quand on a vu. Vraiment, quand on a vu la tendance des premières, c'est que nous, on a eu la crise avec 2 mois de retard, 2 ou 3 mois de retard, parce qu'on est une société d'infra, et du coup, c'est ta utility bill, tu continues à la payer jusqu'au moment où tu fermes vraiment, donc au dernier moment. Donc nous, c'est vraiment à partir de février, fin février dernière, qu'on a commencé à avoir l'étendue des dégâts. Et du coup, au mois d'avril, on a dû resizer l'équipe. Resizer l'équipe, ça veut dire on a dû laisser partir 8 personnes sur une équipe de 30, c'est énorme. Et vraiment essayer de, tu vois, de se reconcentrer sur nos priorités, d'être extrêmement lean sur la façon dont on pense tout. On pense les sales, on pense le. Tu vois, on avait toute une roadmap début 2023 de sponsoring d'events, etc., qu'on n'a évidemment pas fait. Donc voilà, donc tu repriorities et tu dis, OK, bah maintenant, il faut que je tienne 3 ans. En fait, et avec ce que j'ai, il faut que je construise l'équipe et mon budget pour bah là, j'avais prévu de tenir 18 mois, il faut doubler. Et c'est ça qu'on s'est fixé comme objectif. Et davantage avec, encore une fois, et ça apporte aussi des. Honnêtement, ce qui est drôle, c'est que tu vois, ça porte aussi des effets positifs. C'est-à-dire que sur toute notre partie infra, par exemple, on n'avait pas encore pensé optimisation de nos coûts d'infrastructure. Parce que c'est normal. C'est-à-dire, quand tu commences une boîte, ton objectif, c'est la top line, c'est pas la bottom line. Et donc, du coup, les ingés avançaient et on n'avait pas du tout pensé à ça. Et bah, typiquement, on a pu réduire en 6 mois de 50% tous nos frais d'infra. Ce qui était énorme, vraiment énorme. Ça nous a acheté ça 4-5 mois de runway juste en optimisant la façon dont on travaillait. Et ce qui nous rend aussi plus profitable, ça améliore nos unités économiques, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est évidemment pas les sujets sur lesquels tu as envie de travailler quand tu es une boîte qui cherche de la croissance, mais en même temps, bah, ça fait partie des effets positifs de ces phases-là. Donc ouais, aujourd'hui, du coup, on a réussi à allonger notre runway. Je pense que si commercialement ça continue à se passer comme ça se passe en ce moment, on devrait aller sur le marché plus tard cette année. Mais voilà, pour l'instant, on a de quoi tenir encore pendant une année et demie.
Ok, ouais, donc le plan là, c'est pas de relever des fonds à court terme.
quand ce sera bon pour nous, pour moi, c'est metrics first. C'est là,
Ouais, bien sûr.
on va y aller avec les bonnes metrics. Et je dirais que vraiment l'environnement et les résultats depuis fin du troisième trimestre, quatrième trimestre l'année dernière sont bons. Donc voilà, on devrait y aller cette année.
Ok. Et ouais, par rapport à cette levée, hein, donc vous avez levé, comme tu disais, hein, plus de 12 millions. Est-ce qu'il y a, enfin, il y avait des belles références, hein. Il y avait Coinbase Ventures qui ont participé au tour. Il y avait Ash, il y avait Ryan Selkis, hein, qui est le fondateur de Messari. J'ai vu aussi qu'il y avait Xavier Niel. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui sont au board, ou est-ce que vous êtes encore en contact avec eux de temps en temps?
Alors, pour la petite anecdote, Coinbase investit chez nous et annonce la semaine après closing de notre investissement qu'ils achètent Unbound. Je sais pas si tu vois ce que c'était qu'Unbound Tech.
Non.
Dans le monde du MPC, tu avais deux entreprises qui étaient vraiment des entreprises créées par des cryptographes qui vendaient le MPC comme un stack. Donc, il n'y avait pas du tout de wallet API, de signing API. Il n'y avait pas vraiment. Il n'y avait pas la layer qui te permet d'interagir avec la blockchain, en gros, mais qui vendait vraiment que le stack de MPC. Et Unbound, c'est la première. Et donc, pour nous, c'est un compétiteur, enfin, j'allais dire direct, de facto indirect, mais c'est quand même un compétiteur. Donc, c'est vrai que ça a un peu refroidi
Ouais.
en tout cas, les perspectives de relation avec Coinbase, parce qu'évidemment, quand tu t'intègres Coinbase, tu te dis peut-être qu'on pourra travailler ensemble, forcément. Tu dis, c'est peut-être pas la stratégie numéro un d'un Coinbase. Après, c'est vrai que c'est quand même un très bon fonds et on partage pas mal avec l'équipe VC qui nous introduit au portfolio company. Donc il y a quand même une forme de Chinese Wall entre les équipes opérationnelles et le VC. Mais voilà, donc tu vois, c'est des boîtes, quand on a levé, qui mettaient des tickets un petit peu partout, des boîtes comme Coinbase, qui, encore une fois, hein, tu. Il y a une relation qui est intéressante. Après, c'est pas les acteurs les plus actifs, et du coup, c'est pas du tout les gens qui sont sur notre board. Aujourd'hui, nos deux investisseurs principaux, c'est White Star Capital et Motive, et ce sont eux qui sont sur notre board. On a eu longtemps aussi Asht, qui participait aussi. Asht, c'est un investisseur coréen qui est backé par fonds souverains coréens, qui est un super investisseur aussi, très crypto, beaucoup plus DeFi. Donc on a la chance d'avoir un peu ce mix d'investisseurs plus traditionnels avec ce côté très fintech comme des motifs. White Star Capital avec nous, on dépend évidemment du fonds Web3, qui est quand même très très intégré sur la partie Web3, qui a fait des super investissements et qui est vraiment un très beau fonds. Et nous, on a une super relation avec White Star et qui a apporté beaucoup de valeur. Et des fonds, voilà, plus DeFi, comme des Asht, comme des Sémantique. Donc on avait vraiment envie de s'entourer avec ouais, d'acteurs qui pouvaient nous ouvrir les portes dont on avait besoin, donc, et le monde de la fintech, le monde traditionnel, mais également le monde du Web3.
Ok, merci Clarisse. Bon, on va bientôt conclure. Est-ce que tu as une ressource que tu aimerais partager, quelqu'un que tu recommanderais pour ce podcast, ou une anecdote quand tu as envie de partager encore?
Oui, vous devriez inviter, bouge pas une seconde, bouge pas
Yes.
une seconde, parce que son nom m'échappe, mais elle est top. Ah mince, parce que c'est vrai qu'on t'avait fait la remarque qu'il n'y avait pas assez de femmes dans ton podcast,
Ouais,
il me
tout à
semble.
fait. Tout à
Donc
fait.
j'en ai une qui est géniale, bouge pas. Je sais pas pourquoi son nom m'échappe, elle est en train de monter une plateforme de trading de carbone. Mon Dieu, or. Je suis désolée. Bah écoute, je te redonnerai son nom
Tu me le
en
diras en off
off. Off.
et
Mais
je me
écoute,
chargerai de
c'était
la
un
contacter.
plaisir. Voilà, c'était un plaisir en tout cas. Et merci de cette heure passée avec toi.
Merci à toi et merci pour ton temps. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo. C'était une super interview. Merci beaucoup, Clarisse. Et bon, ça aurait pu durer encore longtemps parce que j'avais plein de questions. Mais bon, après, ça fait des trop longs épisodes. Donc, on va s'arrêter là. Encore merci.
Merci à toi.